Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un tout nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Franchir les frontières, 4 histoires de passage. Au départ de cette série, il y a une utopie, l'envie d'aller et venir, de décider soi-même et simplement où l'on va. Prendre un train, traverser une forêt et tout simplement se retrouver de l'autre côté. Laisser derrière soi la guerre, la peur et aussi sa maison et sa famille. Mais pour les privilégiés, les frontières sont de simples formalités, des lignes imaginaires qui traversent des cols, des mers ou des chemins et qui racontent notre histoire. Des lignes qui nous séparent autant qu'elles nous rapprochent. Pour commencer, les personnages. Un journaliste qui veut redonner tout son sens au mot asile, des bénévoles qui accueillent les migrants, un berger qui ouvre sa porte, des compagnons de route, et Ahmad et Ibrahim, deux réfugiés soudanais. Ensuite, le décor. Des gares, où l'on passe, où l'on échoue, où l'on attend ceux qui arrivent, où l'on erre, des trains, des postes frontières, des sentiers, des coins de table, des refuges et des sommets. Aujourd'hui, premier épisode, Passeur, comment j'ai fait passer la frontière à des réfugiés, un documentaire de Raphaël Kraft, réalisé par Jean-Philippe Navarre, on est en France, à Vintimille, pas loin de chez nous, tout près de l'Italie, sur une limite si étroite qu'on ne sait plus où l'on est, et ensemble, on va franchir un col.
Vous voulez mon passeport ? J'ai été contrôlé au poste de Pont-Saint-Louis tout à l'heure aussi.
D'accord.
Vous les voyez beaucoup, les CRS,
Ils sont Enzo. Tout le temps là, depuis des mois et des mois.
Tout le temps ici, à la gare de
tout
Garda.
Tout le temps ici.
Et que se passe-t-il ?
Eh bien, ils rentrent, dans les trains s'arrêtent, ils rentrent. Le train s'arrête un peu plus que d'habitude pour qu'ils puissent effectuer un contrôle poussé. Enfin, aux faciès, en fait, qui n'ont pas de papier, on les fait descendre, on les ramène en Italie.
Passeur. Un documentaire de Raphaël Kraft et Jean-Philippe Navarre.
Donc le train s'est arrêté en gare de Menton-Garavan et les policiers inspectent le train et notamment les toilettes.
Et lui est en face ?
Non.
Qu'est-ce qui se passe, monsieur le chef de train ?
Je regarde juste les migrants, c'est tout.
À chaque fois, ça se passe comme ça ?
Ouais.
Ça a eu une incidence sur vos horaires, etc.
Ouais, ça dépend le temps qu'ils mettent dans les trains. Des fois, on part en retard,
ouais. Ouais. Et c'est systématique ?
Tous les trains.
La frontière est contrôlée H24, bien sûr. Nous sommes dans la zone des 20 km de la frontière, donc qui nous permet de contrôler toute personne et tout véhicule qui circule dans cette zone. Laurent Laubry, je suis le secrétaire départemental Alliance Police Nationale CFE-CGC pour les Alpes-Maritimes.
Quelle est la situation ici dans les Alpes-Maritimes ? Il y a eu des renforts policiers qui ont été apportés au département depuis 2 ans, je crois. Quels effectifs ?
Avant l'été, donc depuis le mois de juin, nous avons en permanence sur les Alpes-Maritimes 4 forces mobiles, 2 escadrons de gendarmerie mobile et 2 forces CRS. Ça fait environ 300 policiers et gendarmes de plus qui sont là pour renforcer les effectifs locaux, donc de Nice et de Menton, et qui se consacre uniquement à la mission de lutte contre le flux migratoire qui a été demandé par le ministre de l'Intérieur.
Ça coûte combien tout ça ?
Certainement des millions d'euros, forcément, puisqu'il y a une masse de forces engagées sur ce phénomène qui est sans précédent. Donc effectivement, il y a un coût très important pour l'État français, donc pour le contribuable.
Est-ce que c'est efficace ?
C'est efficace, oui, puisque les policiers ont reçu des ordres. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2015, on est à plus de 23 000 interpellations réalisées, avec une très grande partie des interpellés, des migrants interpellés, réadmis vers l'Italie. Combien ont réussi à passer à travers les mailles du filet ? C'est impossible à quantifier. Aujourd'hui, il est très certain que le travail très engagé des policiers depuis déjà 18 mois sur cette mission porte ses fruits et ralentit, tout du moins, au minimum ralentit le flux migratoire que l'on connaît. Maintenant, il est très compliqué d'arriver à définir avec certitude l'efficacité du dispositif par rapport aux gens qui sont passés à travers les mailles du filet.
Combien de fois avez-vous essayé de passer en France ? How many times did you try to go to France ?
Deux fois. Oui, par deux fois, j'ai essayé de passer en France. À chaque fois, ils m'ont attrapé et m'ont renvoyé en Italie.
Comment ça se passe ?
En ce qui me concerne, j'ai une expérience de la vie. C'est pourquoi j'essaie de ressembler à quelqu'un de normal. Je prends une douche, je m'habille bien, je me mets du parfum. Vous voyez, on fait de notre mieux pour ressembler à des citoyens normaux. Et on essaie de se mélanger aux blancs pour qu'ils puissent penser que nous sommes l'un d'entre eux. On essaie de s'asseoir au milieu d'eux. Et surtout montrer qu'on est de braves gens, qu'on n'est pas hésitant, qu'on ne ressent pas de peur. On essaie de garder les yeux grands ouverts. C'est un peu comme un jeu d'acteur, en fait. Mais malgré nos efforts, la police nous attrape. C'est la raison pour laquelle je vous disais, j'ai l'impression qu'ils nous sentent de loin. Peut-être qu'il y a quelque chose sur notre visage qui fait qu'ils nous reconnaissent. Je ne sais pas, ils sont très intelligents. Ils viennent directement vers nous et ils commencent à parler en français. Et malheureusement, on ne parle pas le français. Donc il n'y a pas vraiment de procédure. Ils vous descendent du train, ils vous renvoient, c'est tout. Si j'étais un policier français, je les attraperais. C'est clair. Parce que même les Noirs qui vivent depuis longtemps en Europe, ils sont différents de nous. Parce que vous savez, notre peau, on a l'air fatigué. Parce que notre voyage a été un enfer. Et le soleil sur la mer Méditerranée est très fort. Et on a passé 3 ou 4 jours au milieu de la mer. Donc notre peau est brûlée. Donc c'est clair, c'est une évidence. Tout le monde peut nous reconnaître.
Laurent Lobry, il y a énormément de migrants, notamment que nous avons pu rencontrer à Paris, qui ont tenté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de passer la frontière franco-italienne pour finalement y arriver la cinquième fois. Et ils font partie des statistiques, ceux-là.
S'ils ont été interpellés, oui, forcément, bien sûr. Mais effectivement, il est aisé de comprendre que des migrants qui sont persécutés ou pas dans leur pays, qui ont fait des milliers de kilomètres dans des conditions très compliquées, souvent très dures, qui ont endetté leur famille pour des décennies pour payer leur transfert vers l'Europe, il est clair que ce n'est pas un contrôle de police à la frontière franco-italienne ou ailleurs, d'ailleurs, qui va les arrêter. Ils veulent à tout prix passer et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas réussi à passer. En tout cas, les policiers affectés sur les Alpes-Maritimes de la police aux frontières fatiguent même beaucoup, parce que cette mission est répétitive et très compliquée depuis 18 mois. Il y a une fatigue physique liée à l'intensité de la mission, il y a une fatigue morale liée à la confrontation depuis 18 mois à toute cette détresse humaine. Et derrière l'uniforme du policier, il y a un homme, il y a une femme, et c'est compliqué à gérer pour eux aussi.
L'année dernière, au début de l'automne, je découvrais un chalet situé aux confins de gorges traversées par une route sinueuse. Il donnait sur la montagne. C'était une maison à laquelle on accédait par un chemin de pierre, précédé d'un portail rouillé et figé dans le sol pour n'avoir jamais été fermé. La terrasse était un assemblage de planches rongées par le soleil et la pluie. On la traversait en funambule avant d'atteindre une porte-fenêtre aux vitres opaques qui tenait lieu d'entrée sur la pièce à vivre. Au mur, kilim, poterie, des souvenirs de voyage, afghans pour la plupart. J'étais venu là pour entendre Hubert qui accueillait tous les réfugiés de passage. Il avait découvert Kaboul dans la plus stricte tradition routarde alors qu'il était en chemin pour le Bangladesh au début des années 70, peu de temps après la guerre civile. Époque pas si lointaine et pourtant révolue, où le désir d'un monde meilleur prenait d'abord la forme du pèlerinage.
Moi, je me suis tapé, comme 68 tard, la route de Katmandou et machin. Ce qui n'est pas, absolument pas comparable, parce que nous, on avait le choix et il n'y avait aucun danger, alors qu'ils n'ont pas le choix et il y a tous les dangers. On avait trop de matériel, nous. On avait ras-le-bol du matériel. Mais nous, c'était une espèce de quête spirituelle, je dirais. Et eux, c'est matériel, parce que le spirituel, ils l'ont ancré. Et c'est ça qui les fait tenir, ouais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est très fort, c'est très fort. C'est très fort.
On est dans les gorges du... On peut le dire, du loup ?
Ouais, bien sûr.
Dans un chalet perché sur les flancs de ces gorges.
Oui, et puis en pleine nature, c'est facile. Pour moi, en plus, c'est facile, hein, vous voyez, parce que t'as vu, il y a trois bâtiments, enfin bon, indépendants, c'est petit, mais voilà, tout le monde s'organise, et puis en même temps, bon, on a une certaine Si on veut s'isoler, on peut s'isoler. Bon, c'est très facile, hein, c'est très très facile. Le seul problème, c'est les moyens de transport, parce qu'on est un peu isolé. Mais enfin bon, on se débrouille, ils font tous du stop. Il y en a qui découvrent le stop et qui disent, mais super le stop. T'avais fait du stop déjà, toi Ouais, Saddam avant. Saddam, c'est un colocataire qui devient un peu permanent, lui.
Je me retrouvais l'invité d'un repas amical. Il s'en dégageait une flamme que la verve d'Hubert n'était pas seule à attiser. La présence, tout autour de la table, d'individus à l'apparence banale, mais dont l'existence récente avait été marquée par l'aventure, donnait un supplément d'âme à la réunion.
Saddam Youssef, il est essentiel. Dans les traductions, c'est lui qui emmène les gens au bus ou au train. Voilà, le matin, ils partent et hop, ils prennent le bus et ils s'en vont... À la gare routière ou à la gare pour trouver un moyen safe pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Et là, tu vois, hop.
Allô, oh, y a mon... Allô, t'es ma fille? T'es ma fille? Sardin. Chefna, t'as guidé le gâteau. Fille, y a ni... Fille, 7 à sobah, bokre. À la Nantes. 7 à sobah, à la Nantes, hier. Elle a raccroché.
Il y a une chose qui est merveilleuse, que de toutes les façons, ils arriveront à Nantes.
Qu'est-ce que vous dites, Hubert ?
Je dis que de toutes les façons, ils arriveront à Nantes. Hein ? Ils arrivent, c'est incroyable. Hein ? Moi, j'ai vu des gars, des mineurs, sans un sou. Tout était bloqué dans le département. Les gars, c'est impossible de sortir, hein, mineurs. Et on a passé à peu près 8 jours à le persuader qu'il ne fallait pas partir maintenant, qu'il fallait qu'il se repose, prendre son temps, tranquille. Il a fini par s'échapper parce qu'on commençait à l'emmerder, à essayer de lui expliquer qu'il fallait rester là. Lui, il voulait continuer son voyage. 15 jours après, il m'appelait et il était à Londres. Ça veut dire qu'il avait raison. Ben oui, il a une telle détermination, une telle, dire les gars, ils y vont, puis c'est tout. Ils ont vécu tellement de choses, tellement plus difficiles, des obstacles. Ils en ont passé des tels que là, c'est du beurre. Hein.
J'étais arrivé de Paris le lundi 28 septembre 2015 pour une série d'enquêtes sur le thème des réfugiés bloqués à la frontière franco-italienne des Alpes-Maritimes. Journaliste indépendant, j'avais le temps pour moi et je choisissais autant que possible l'intimité de l'accueil chez l'habitant aux nuits d'hôtel.
Donc du vrai café italien.
Mon nouvel interlocuteur, que je rencontrais le lendemain de ma soirée chez Hubert, me proposa spontanément le gîte et le couvert. Ma chambre était en Italie cette fois. Son lit recouvert d'une lourde étoffe à la gloire de Lénine. Enzo, mon hôte, m'avait fait visiter son domaine qui s'étendait à cheval sur l'Italie et la France. Presque un tour du propriétaire tant il en connaissait chacune des pierres. Enzo était historien. Nous avions commencé par marcher à travers les jardins de son village jusqu'à son extrémité occidentale avant de nous engouffrer sur la droite dans un vallon traversé par les quatre voies de l'autoroute. Plus en amont et presque au niveau du Talweg gisaient les ruines du hameau de Caseggina. Passé les ronces et des escaliers au carrelage brisé, Enzo m'avait fait pénétrer dans une pièce jonchée de parpaings, boîtes de conserve et de fichus aux couleurs passées, les murs constellés de graffitis, slogans, mêlés aux dates et prénoms des voyageurs clandestins en route vers la France. Caseggina, ultime étape où l'on attend la nuit noire pour le dernier passage. Aux vêtements abandonnés récemment pour s'en vêtir de plus propre et espérer passer inaperçu une fois dans les rues de Menton, Enzo répondait que cette voie de passage était devenue marginale depuis l'entrée en vigueur en 1995 de la Convention d'application de l'accord de Schengen.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? On attrape, on fait des... disons un peu
guillemets. Que se passe-t-il ? Où est-ce qu'on se trouve là, Enzo
on
Barnaba ?
Se trouve à la frontière franco-italienne du Pont-Saint-Louis, l'ancienne frontière.
Derrière nous, à une trentaine de mètres peut-être, des fourgons de la police française étaient garés de telle façon qu'ils semblaient cacher quelque chose.
Et un territoire français, le dernier truc, c'est une sorte d'enceinte où on renferme les migrants qu'on attrape dans les Alpes-Maritimes et dans les alentours, on les ramène en Italie. Et en attendant que la police italienne vienne les chercher, on les garde dans cet enclos. Et c'est très triste à voir, hein, parce que ça fait penser à la concentration, je ne sais pas quoi. C'est triste à voir ces gens qui... parfois reste des heures et des heures sous le soleil sans pouvoir boire. C'est pas bien.
On peut aller les voir ?
Théoriquement, oui, mais dans la pratique, les policiers ne sont pas contents. Mais non, si mais tu veux...
juste marcher, ben, que écoute, tu me racontes,
oui,
que,
ben
vous,
on...
que vous me racontiez.
Oui, 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 on se gare et puis on s'approche. Hein. On se gare juste sur le pont. Alors là, on est déjà en Italie. On est au poste de police et je ne sais pas si les policiers nous regardent, je ne sais pas s'ils sont contents de ce qu'on fait là. Il faudrait peut-être leur demander l'autorisation, leur dire... Là, ils ne nous disent rien, oui. Oui. Donc, on a créé cet enclos avec des containers et des barrières. Et il y a... une vingtaine, je dirais, de migrants qui attendent. Il y en a à l'intérieur aussi. Ouais. Ils ont été attrapés dans des, entre guillemets, des rafles dans le territoire français, aussi bien dans les gares que
au péage de la Turbie.
Et donc on les ramène ici pour les livrer à l'Italie. Mais les policiers italiens ne les prennent pas tous. Il faut qu'on montre, qu'on démontre que ces gens viennent d'Italie. Alors, les Italiens sont obligés de les reprendre. Mais il faut des preuves. Il ne faut pas qu'ils soient mineurs, ça aussi. Les mineurs ne peuvent pas être renvoyés.
La seule chose qu'ils veulent, eux, c'est ouvrir la frontière, les migrants. Mais ils ne demandent rien d'autre. C'est-à-dire pas du tout ce qui est bienveillance, charité, on appelle ça tout comme on veut, mais bon, voilà, c'est pas ça, ils veulent, je trace, et puis voilà. Si on ouvre la frontière, ça va passer comme ça passera auparavant. C'est des gens qui savent à peu près où ils vont. Ils ont des contacts en Europe, et ils continuent leur route, quoi. Ils continuent leur voyage, hein.
Sur le perron de la gare de Vintimille, dernier arrêt italien avant la France, les réfugiés se mêlaient aux policiers qui se mêlaient aux passeurs. Il ne fallait pas être fin limier pour les reconnaître. Ils étaient là, immobiles et sans rien faire qui puisse laisser penser qu'ils attendaient un proche à sa descente du train. À intervalles réguliers, l'un d'eux rompait avec son attentisme, se mêlait à un groupe de réfugiés et leur parlait à voix basse. Soit le passeur était éconduit, soit il s'écartait du groupe avec un ou deux clients à sa suite, à qui il annonçait un tarif qui semblait fixe et non négociable. 30 euros à payer au départ, 100 euros en cas de succès à l'arrivée à Nice. Des prestations plus onéreuses garantissaient un voyage en TGV jusqu'à Paris, voire au-delà. D'autres voyageurs, plus argentés encore, avaient pris soin de confier une partie de leur pécule à Athènes ou Istanbul, où une organisation pareille à une agence de voyage se chargerait de les mener à bon port.
Je m'appelle Ibrahim. Je viens de l'état du Darfour occidental, de la ville d'Algenina. Je suis arrivé ici en Italie il y a environ 2 semaines.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est soudanais du Darfour et qu'on arrive à Vintimille ?
Everybody has his own direction.
Tout le monde a son propre chemin, sa propre destination. En ce qui me concerne, ma destination finale est la France. Je veux vivre là-bas, rester là-bas. Je recherche la paix, la vie, l'éducation. Rien de plus. C'est tout ce que l'on recherche. Nous avons échappé à la guerre, à la mort. Nous recherchons la paix. C'est l'unique raison de notre venue ici. Concrètement, vous arrivez le premier jour, vous ne pouvez trouver nulle part où dormir, parce que vous ne connaissez personne, vous n'avez pas d'adresse où trouver refuge. Le premier jour, vous dormez à la rue. Ensuite, vous cherchez le camp humanitaire quand il y en a un. Le plus important pour nous, c'est de trouver un toit. La nourriture n'est pas la chose la plus importante. On se contente de manger sur le pouce, des biscuits, de l'eau, ça nous suffit. Ce qui nous importe, c'est un endroit où dormir. C'est ça le plus important. Ici à Vintimille, on a accès à ce camp de la Croix-Rouge. Ils sont vraiment bons avec nous. Ils nous accueillent, nous offrent un lit avec des couvertures,
trois repas par jour. C'est bien. La seule chose dont je me plains, c'est l'horaire de fermeture le soir. Il faudrait qu'ils réfléchissent à changer cette règle.
Pourquoi ?
Parce qu'ils savent très bien qu'on ne veut pas rester en Italie. On veut passer la frontière. Certains d'entre nous veulent s'installer en France. D'autres vont plus loin, au Royaume-Uni ou en Norvège. Parfois, on essaie de passer par le train. Et quand la police française nous attrape, ils nous renvoient ici. Et à chaque fois, on arrive après l'heure de fermeture du camp. Il ferme à 22h30, c'est très tôt. Et à chaque fois, on termine à la rue. Comme la nuit dernière, j'ai passé toute la nuit dehors. Il faisait froid, il pleuvait, c'est très difficile.
Mon conseil, c'est déjà de ne pas aller à Calais. Parce qu'à Calais, il n'y a aucune chance d'avoir un logement. D'accord. Tout le monde est là-bas, tout le monde essaye de passer en Angleterre.
Il a demandé où ça ?
Pas à Paris, mais plutôt dans les grandes villes, à Lyon. Ils peuvent essayer à Nice, c'est la première. Il y a une sous-préfecture où ils peuvent faire une demande d'asile.
Dans les grandes villes.
Proche, exactement. Ouais. À Bordeaux, pas à Paris.
Lou venait de Paris, arrivée dans l'avion de Nice le matin même. Elle faisait cela chaque samedi depuis plusieurs mois. Le dimanche, elle allait à Calais. Elle prenait sur son temps et son argent pour renseigner les réfugiés sur leurs droits et la procédure française de demande d'asile. Pourquoi faisait-elle cela ? Parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, m'avait-elle répondu en substance, puisque l'État manquait à son devoir d'assistance et d'information.
Je ne suis pas représentante de l'État, je suis avocate.
Ouais,
mais je suis en train de leur expliquer que s'ils se présentent dans 3 jours à Nice, à la préfecture ou aux endroits où je leur indiquerai de se présenter, ils pourront trouver un logement très rapidement pour les familles.
Nice, Lyon,
Bordeaux,
Toulouse, Khayr Khouya.
Nantes,
هذوما اللي تقدر تستراسبورغ حدود تاع الالمان استراسبورغ راهي حدود فرونتيير مع الالمان.
Ce qu'il faut lui expliquer, c'est que déjà la première chose, c'est il faut aller à la préfecture. La préfecture va relever leurs empreintes. C'est la première étape qui est nécessaire pour faire une demande d'asile. OK ?
OK.
Ensuite, à la préfecture, on ne va pas les interroger sur la demande d'asile.
Ouais.
S'ils ont déposé leurs empreintes nulle part en Europe, ça va être hyper rapide. Okay, ils vont recevoir un document qu'il va falloir remplir. Et je peux leur donner des contacts d'associations ou d'avocats qui peuvent bénévolement les aider à remplir les documents. Et pendant ce temps-là, ils seront logés. Pendant tout le temps de l'instruction, la France les protège. Ils ne peuvent pas être envoyés en Irak. Ils ont un logement et une aide financière.
Mais il ne peut pas passer avec son famille, il y a la frontière, il y a la police.
Pour l'instant, moi je lui parle quand il sera en France. Je ne peux pas du tout lui expliquer comment passer les frontières, ce n'est pas du tout de mon ressort.
C'est quoi, selon vous, la meilleure heure pour prendre le train sans être arrêté par la police ?
Selon moi, c'est pendant les heures d'affluence. Parce qu'à ce moment-là, le train est bondé et vous pouvez vous mêler aux voyageurs. Moi j'ai déjà fait 2 tentatives à cette heure-là. Je ne sais pas. Certains disent que c'est mieux le dimanche, mais je n'en suis pas certain. Ils disent que la surveillance est plus relâchée. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils disent.
Qu'est-ce que vous leur dites aux policiers quand ils vous arrêtent ?
Je leur dis que je veux rester en France. Que je ne suis pas un fauteur de troubles. Que je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai un passé, j'ai travaillé dans des organisations internationales, ils peuvent vérifier, ils peuvent m'interroger, je ne cherche que la paix. Je les supplie de me laisser passer. On essaie de les convaincre, mais c'est très difficile de convaincre des policiers, très difficile. Ils ne vous donnent même pas l'occasion de parler, ils vous disent de la fermer. Je ne comprends pas le français, mais parfois on devine les choses. Je comprends qu'ils me disent qu'ils ne parlent pas anglais. Ils m'ordonnent de me taire. Voilà.
Est-ce que, par exemple, ils vous proposent l'asile politique ou pas ?
En ce qui me concerne, la première fois, ils ne m'ont pas fouillé. Mais la deuxième fois, ils ont fouillé mes poches, mon sac. Ils recherchent tout ce qui pourrait, comment pourrais-je dire, tout ce qui pourrait prouver que vous êtes passé par un autre pays européen pour vous y renvoyer. Par exemple, s'ils trouvent un papier écrit en italien, c'est la preuve que vous y êtes passé.
Et
je leur ai dit non, je ne suis pas passé par l'Italie, je suis passé par le Royaume-Uni. Renvoyez-moi à Paris, à Calais ou n'importe où ailleurs, vous voyez. Mais bon, ils ont vite fait de comprendre mon entourloupe, parce qu'on est dans la région de Nice ou Menton ici. Et donc, c'est ici qu'elles m'ont renvoyé.
So that's it. Those are the bag here.
Et le problème de la gare de Menton-Garavant, c'est que l'arrêt avant Menton-Garavant, c'est l'Italie. You automatically come from Italy.
Yeah, it's obviously.
Mais c'est une évidence, je sais cela. Mais on essaie, qu'est-ce que vous voulez?
They said if you have goals,
si vous avez un but à atteindre, il vous faut tout tenter. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est pour cette raison que nous nous obstinons.
So that's why we are trying, we are trying, we are trying.
British, you want to go to the UK?
Yeah.
Okay. Les conditions de vie à Calais sont très difficiles et la frontière est fermée.
Big
et il y a 3500 personnes à 4000 personnes qui attendent de passer et qui ne passent pas. C'est impossible aujourd'hui de passer, surtout avec des enfants.
4000, avec ma dakhlouch l'anglais. Tu veux dire طلب بيدوك لفرنسا. انت وعائلتك.
Qu'est-ce qui se passe? Non.
En fait, il a contacté un membre de sa famille en Angleterre. Thank you. Il a contacté un membre de sa famille en Angleterre et ils ont décidé d'envisager de déposer leur demande d'asile en France.
Pourquoi cette famille kurde qui attend sur le rebord de la gare de Vintimille ne peut pas passer la frontière légalement et formuler une demande d'asile aux policiers de la PAF?
En théorie, encore une fois, on peut présenter une demande de visa aux ambassades de France, donc depuis l'étranger, aux fins de l'asile, pour obtenir un visa et entrer légalement en France. C'est la seule solution aujourd'hui qui est ouverte aux demandeurs d'asile. Mais aujourd'hui, la France ne délivre quasiment plus de visas aux fins de l'asile. Donc, la seule possibilité est l'entrée illégale. Ils n'ont aucune alternative. Le système ne leur donne aucun autre choix. Et on ne peut absolument pas les aider à traverser les frontières.
Mais là, ils sont déjà en Union européenne. Pourquoi le passage en France n'est-il pas possible pour eux, légalement ?
Avec les accords Schengen, il n'y a pas de contrôle aux frontières, en principe. Mais très récemment, les contrôles entre la France et l'Italie ont été réintroduits du fait de cette situation d'exception. Et donc, la police aux frontières risque de les arrêter une fois qu'ils arrivent en France. Là, en principe, une fois qu'ils sont en France, même s'ils ont traversé la frontière illégalement, ils ont le droit de présenter leur demande d'asile à la police aux frontières. En pratique, le problème, c'est que cette demande d'asile n'est, dans la plupart des cas, pas enregistrée. Et ils sont refoulés en Italie.
Donc c'est une pratique illégale?
Oui, absolument. Dès lors qu'ils sont sur le territoire français et qu'ils présentent une demande d'asile, on devrait instruire leur demande d'asile, déterminer si la France est l'État membre responsable de leur demande d'asile et les introduire dans la procédure.
Donc cette famille, avec deux enfants en bas âge, va devoir passer par le train, par la montagne ou dans le coffre d'une voiture pour aller à la préfecture de Nice?
Malheureusement, oui. Puisqu'il n'y a aucun système, aucune loi, aucune procédure qui est mise en place dans l'Union européenne pour organiser actuellement la répartition des demandeurs qui se trouvent sur le territoire de l'Union.
Pouvez-vous nous emmener à la préfecture de Nice? Demanda alors le père de famille kurde à l'avocate. Elle lui répondit que non, que c'était illégal. C'était à rien y comprendre pour le kurde. Il se tourna vers moi et me fit remarquer qu'il m'avait vu arriver en voiture. Ne pourrais-je pas, moi, les emmener à Nice? J'avais soulagé ma conscience en donnant le numéro de téléphone d'Hubert à la famille kurde. Je l'avais appelé lui aussi. Il m'avait dit qu'il connaissait des gens, qui connaissaient des gens, qui pourraient faire quelque chose pour eux. Je m'étais réfugié derrière ce statut de journaliste que nous sommes si fiers de brandir en toutes occasions. Pas là.
Est-ce qu'il y a des gens ici qui viennent vous voir pour vous proposer De passer en voiture contre de l'argent?
Moi, je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas beaucoup d'argent et ça coûte cher. Et même si j'avais de l'argent, je ne fais pas confiance à ces gens-là.
Quelles autres options envisagez-vous pour passer après avoir essayé sans succès deux fois le train?
Je vais encore essayer, encore et encore, par le bus ou par le train. Et j'espère avoir la chance de tomber un jour sur un policier anglophone que je tenterai de convaincre de me laisser passer. C'est une affaire de logique et d'humanité. Je veux pouvoir le convaincre que je peux devenir son hôte dans son pays. Qu'il peut m'aider en cela. Je le supplierai de me laisser entrer.
And for that, I'm going to send a call to all.
C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au peuple français. Essayez, s'il vous plaît, de nous aider.
Thank you. You know what we heard about.
Je crois que les Français devraient nous aider.
The French guys I met in Darfur.
Vous savez, les Français ont cette réputation.
They are very helpful.
Les Français que j'ai rencontrés au Darfour, qui travaillaient dans des organisations humanitaires, ils étaient très serviables, très aidants. Ce sont des gens généreux, intelligents. Ils se tenaient toujours à nos côtés. C'est cette idée que je me suis fait des Français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la France comme destination finale dans mon voyage. Ce sont mes amis français du Darfour qui m'ont convaincu. C'est pourquoi j'espère que les Français vont répondre à mon appel à l'aide. Ce qui arrive ici à Vintimille, je le vis comme une punition. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous laisse une chance. Je ne demande pas qu'on me laisse entrer en France pour en devenir un citoyen du jour au lendemain. Je veux que la France me donne ma chance, qu'il m'accueille comme un être humain. Je mérite cela. Et je prouverai ma moralité, mon humanité. Interrogez-moi. Laissez-moi vous expliquer ma situation. Et si je ne parviens pas à vous convaincre, ce n'est pas grave. Vous pourrez me renvoyer. Mais laissez-nous une chance. C'est tout ce que je demande.
Ibrahim avait toujours tenté sa chance par le train. Il faisait le pari de la statistique. À force de tentatives, il arriverait bien un jour où son wagon ne serait pas fouillé par la police à Garavant, première gare française après l'Italie. Chaque tentative demandait des efforts, une organisation, des sacrifices. Deux jours plus tard, je lui proposais de mettre un terme à son calvaire. Surpris par cette proposition, et comme pour tester ma bonne foi, il me dit qu'il avait voyagé depuis Khartoum avec son ami Ahmad, et qu'il me suivrait à la seule condition que celui-ci nous accompagne. Je ne voulais prendre aucun risque, notamment celui de rencontrer une patrouille. Je ne risquais pas grand-chose. Je voulais seulement que mes nouveaux amis arrivent en France paisiblement. J'avais arrêté mon choix sur le col de Fenestre, qui fut pendant des siècles le point de passage pour les pèlerins piémontais, lombards, voire autrichiens en route vers Compostelle. Et si beaucoup de juifs persécutés et d'antifascistes italiens passèrent aussi par là, Fenestre était plus connu pour avoir été foulé les 9, 10 et 11 septembre 1943 par quelques 650 des 1200 juifs installés à Saint-Martin-Vésubie, fuyant devant l'avancée des troupes allemandes dans les pas de l'armée italienne qui occupait le sud-est de la France. Cette course présentait le double avantage d'être peu fréquentée à cette saison et de se situer à une faible distance de notre point de chute en France. Le lendemain de notre rencontre, je rentrais chez Hubert afin de préparer cette randonnée.
Hubert, samedi nous rencontrons une famille kurde avec deux enfants sur le parvis de la gare de Vintimille. Et le dimanche soir, les voici dans votre maison à table dans les Gorges du Loup.
Les militants No Border m'ont averti qu'il y avait une famille de Kurdes avec deux petits-enfants un peu perdus. Ils m'ont demandé est-ce qu'il est possible de trouver une solution pour qu'ils passent la frontière. Et donc on a trouvé bien évidemment une solution. Ils font une halte chez moi là. Famille très éprouvée, fatiguée. Quand on les voit à la gare de Vintimille, recroquevillée dans un coin de la gare, le papa protégeant toute la famille contre personne, mais en même temps dans un climat difficile. Et donc voilà, ils ont passé la frontière et voilà, ce soir ils sont là et on va manger un couscous préparé à Saddam, le Tunisien. Tous sont obligés de passer la frontière, de toute façon. Ils peuvent pas, ils vont pas rester bloqués. Imaginons que la frontière soit complètement bloquée. Il y aurait à l'heure actuelle 3000 migrants bloqués à la frontière de Vintimille. Donc voilà, ça passe, tout le monde passe. Hein. Alors plus ou moins, c'est plus ou moins difficile. Pour eux, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils peuvent pas se taper la montagne. Avec le début de l'automne, voilà, avec des risques. Et là, ils vont faire une demande d'asile, donc ils sont en parfaite légalité maintenant. Et ils vont peut-être arriver à se reconstruire après autant de difficultés, à mener une vie normale dans leur pays.
Carlo, dunque, arriveranno domani alle 8:43 di sera alla stazione di Fossano e sono stranieri, hanno dei sacchi a pelo e quindi possono dormire tranquillamente dappertutto, insomma, non c'è bisogno. Il mio amico si chiama Raffaele, gli do il tuo numero così in ogni caso vi sentite, insomma, se ci fosse necessario. Grazie Carlo, ciao, ciao. Il sera à la gare, okay. À l'heure fixée.
C'est qui ce Carlo qui va nous loger demain soir, Enzo?
Carlo, c'est un militant communiste. Il est génois, en fait. Quand il ouvre sa bouche, on entend le port de Gênes dans toute... Ouais. Il avait adhéré au jeunesse communiste à Gênes. Et puis il trouvait que le parti communiste était trop à droite. Ah oui, oui, donc il avait adhéré à des groupes gauchistes et puis trouvait que ces groupes étaient trop à droite. Et pendant quelque temps, il ne lisait que des journaux étrangers, notamment le Gram de Cuba. Il ne s'intéressait plus à la politique italienne à cause du fait qu'ils étaient tous à droite. Mais il est quand même très pragmatique, hein, je dois dire. Il a pendant 10 ans dirigé un journal qui s'occupait d'immigration, di tutti i colori. Ça veut dire toutes les couleurs. Et il donnait la parole aux immigrés, souvent dans différentes langues, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Bon, au-delà de l'aspect politique, sur le plan humain, c'est quelqu'un de remarquable, parce qu'il a 6 enfants, et puis en plus, il en a adopté un 7e, et sa maison est toujours ouverte aux étrangers, aux gens qui ont besoin de loger chez lui. Voilà.
Merci Enzo.
De rien. Donc la décision est prise, allez, c'est bien.
Gare de Fossano dans le Piémont en Italie. 20h43, je suis accompagné de Thomas.
Il y a de la neige ?
Un ami berger venu me rejoindre avec des chaussures de montagne pour Ibrahim et Ahmad, ainsi que de sa bonne connaissance de la montagne.
Oui, la montée sur un versant nord.
Je savais qu'il nous ferait passer coûte que coûte.
Comment ?
Et en douceur.
Ça risque d'être tout en neige. Écoute, on a des bonnes chaussures, donc ça va bien se passer. Comment ça s'appelle le village de départ depuis le...
San Giacomo.
San Giacomo, on met combien de temps pour aller au col de Fenestre? Et après la redescente sur le refuge de Notre-Dame de Madone de Fenestre, là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... On suit le sentier, c'est relativement carrossable. Bon, super. Faut compter combien? 2 heures de descente. Je te laisse et je te raconterai dès que je rentre.
Bienvenue.
My friend.
How are you? Good. Comment ça va?
Yeah, good. Yeah.
Ouais, ça va bien.
Vous avez fait bon voyage?
Ouais. Nous avons fait bon voyage.
This is my friend Thomas.
Voici mon ami Thomas.
See you here. What is the news?
Alors Raphaël, quelles sont les nouvelles?
Because, you know,
parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas regardé la télé.
It was really,
et donc je me demande,
long time
qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment?
Je ne pourrais pas te dire ce qui se passe au Soudan.
Non, I'm not asking about
le Soudan, ce n'est pas ce qui m'intéresse en ce moment.
I'm asking maybe
ce que je veux savoir, c'est...
La grosse info ici, c'est qu'il y a eu des pluies diluviennes dans les régions de Nice et de Cannes.
In Nice, Cannes. Really? 16 people died.
16 personnes sont mortes.
16 personnes? Je suis désolé d'apprendre ça. Où est ton autre ami?
Je ne sais pas.
Vraiment?
Non.
Je croyais qu'il était déjà avec toi.
C'est seulement qu'on doit l'attendre ici.
Hein? D'accord.
Et d'ailleurs, ce n'est pas mon ami. Je ne le connais pas.
Okay.
Il devrait apparaître normalement. J'ai son numéro de téléphone. Mais je suis sûr que c'est cet homme qui arrive là-bas.
Carlo? Carlo?
Si, si. Tu sei?
Raffaello.
Raffaello.
Thomas?
Thomas.
Bonjour.
Ahmad.
Hi.
And Ibrahim.
Bonjour. Nice. Okay. Enchanté.
Comment il s'appelle?
Dinka.
Carlo vivait seul avec son chien Dinka depuis le décès de son épouse un an plus tôt. Le dîner terminé, nous invitâmes Ibrahim et Ahmad à se coucher dans le grand lit de la chambre d'amis au premier étage. Malgré mon insistance, ils refusèrent de passer sous les draps et s'enveloppèrent tout habillés dans le couvre-lit. C'était leur première nuit au sein d'un foyer européen. Ceci fait, Thomas et moi préparâmes les sacs. J'avais acheté de quoi tenir un siège. Si, pris dans la tempête, nous devions nous réfugier dans une de ces casemates qui parsemaient la crête frontière. Nous nous répartîmes le linge de rechange, les coupe-vents, bonnets, cache-col et autres couvertures de survie. Et fûmes pris de gêne à la vue des sacs de lycéens, qui renfermaient les seuls biens qu'Ibrahim et Ahmad transportaient depuis le Darfour, sauvés des eaux par la marine italienne au large de Trapani, en Sicile.
It's time to go to France.
Okay, let's go.
De Fossano, en route pour San Giacomo di Antrac.
You love adventures, Raphaël?
Tu aimes l'aventure, Raphaël? Yeah.
Moi?
Yes, I do.
Oh oui.
Yes, because we're having one right
now. Eh bien, voici une qui commence. Même moi, j'aime les aventures.
Vraiment?
Yeah, but this is the biggest one.
Mais celle-ci est la plus grande
like,
de toutes.
You know, it seems like it's gonna be the first.
Comme si c'était la première de ma vie. Comme si c'était la plus grande de toutes.
I'm sure that you have.
Je suis sûr que tu as vécu des aventures autrement plus difficiles dans un passé récent.
Ouais. Mais celles dont tu parles, je ne les considérais pas comme des aventures. Parce que j'y étais contraint et forcé. J'ai vécu des situations risquées. J'ai mis ma vie en jeu. Je n'étais pas maître de mon destin. Ouais, c'était très risqué. Au Darfour, en Libye. Ouais, en Libye. En Libye, nous avons vu des choses que nous n'oublierons jamais. Avant de nous mettre sur un bateau pour traverser la mer, les gens étaient battus, la nourriture infecte, le logement inqualifiable. Tu avais beau payer pour tout ça, tu étais quand même très maltraité.
Ils vous appelaient Abid ?
Ce mot, tu l'entends à tout bout de champ.
Ça veut dire quoi, Abid ?
Abid veut dire esclave. Toutes les personnes noires de peau en Libye n'arrêtent pas d'entendre ce mot. Même si tu te lis d'amitié avec l'un d'entre eux.
Even if you became friend with them or anything.
Mais le pire, c'est les Érythréens qui le vivent.
And the way they, you know, bring them.
D'Érythrée, ils passent par le Soudan.
You know, they came from Eritrea.
Ensuite, ils traversent le désert du Sahara jusqu'au sud de la Libye.
Cross a Sahara to Libya.
Jusqu'à une oasis qu'on appelle Sabha.
City called Sabha. From Sabha.
De Sabha.
You know how they bring them.
Tu sais comment ils les emmènent à Tripoli?
Non.
On the. How I can say.
Comment pourrais-je dire ça? Tu sais, les gros camions qui transportent de l'essence, ils les mettent dedans.
Vraiment?
Dans les citernes. Après que la citerne a été vidée de son fuel et de son essence, il
n'y
a pas du tout d'oxygène à l'intérieur. Ils en mettent une centaine là-dedans. Ou 80, 70. À peu près ce nombre-là. Et puis ils ferment la citerne pour les emmener de Sabha à Tripoli, à Ben Walid exactement, un peu avant Tripoli. Ils ont une ferme là-bas. Un jour, alors que les camions arrivaient, j'ai aidé ces gens à sortir des citernes. Ils étaient morts, pour ainsi dire. J'ai pris une lance à incendie pour les arroser, pour que leur corps respire à nouveau. Il y avait des femmes et des enfants dedans. C'était une tragédie, une vraie tragédie. Et ces gens ont payé 4 ou 5 000 dollars pour ce voyage. Et même arrivé là, les mauvais traitements ne font que commencer.
Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une partie de plaisir.
Oui, ce n'est pas aussi risqué et aussi dangereux. Si on se fait arrêter, je risque seulement d'être refoulé. Je ne serai ni maltraité, ni battu, ni enfermé dans une citerne, rien de ce genre.
Comme des milliards d'adolescents dans le monde, Ibrahim avait découvert l'existence de la France par l'étude de sa révolution, en cours d'histoire au collège. C'est au contact d'humanitaires français rencontrés au Darfour où il avait trouvé une place d'agent de sécurité au sein d'une ONG qu'il fit plus ample connaissance avec son futur pays d'élection. Ibrahim n'avait qu'une idée en tête, étudier. Le Soudan ne lui avait pas offert cette chance. Ibrahim appartenait à une tribu affidée au régime et dont les membres gonflaient les rangs des milices Janjaweed, force supplétive du pouvoir à Khartoum. Elle semait la terreur parmi les populations non arabisées de sa région. Ils ne voulaient pas se rendre complices de leurs atrocités. Le calvaire commença par des menaces proférées au téléphone, des visites, la nuit, à son domicile. Il se cacha, puis partit pour Khartoum, où toutes les portes, dont celle de l'université, se fermèrent, du fait de son refus d'adhérer au Congrès national, parti officiel au pouvoir. De retour au Darfour, il fut de nouveau harcelé par les milices Janjaweed pour qu'il intègre leur rang. Un jour, elles incendièrent le magasin de réparation de téléphones portables où il avait trouvé un emploi. Le lendemain, il prit sa décision de quitter le Soudan et les siens pour la France.
C'est beau, hein ? L'air est frais. Le torrent descend de la montagne. Ça caille, hein ?
Qu'est-ce que tu fais ici ?
Il y a un copain qui m'a appelé pour me demander de l'aide. Ça avait l'air un peu pressé, du coup je suis venu. Ouais, le projet a excité ma curiosité, dans le sens où en ce moment on entend parler dans la presse française sans arrêt, les migrants, les réfugiés, tout ce truc-là, mais c'est qui ces gens-là ? C'est l'occasion pour moi d'aller toucher concrètement ce problème-là, d'aller voir ces gens-là, d'aller voir ce qui se passe du côté de la police, d'aller voir ce qui se passe pas, d'aller... Et c'est très intéressant. On a peur de ces jeunes-là, qui sont comme les jeunes de chez nous. C'est les mêmes. Il fuit des pays en guerre. Du coup, là, je suis content de participer à ça. On n'est pas encore au bout. Mais tu m'as dit que si on croisait des flics, ils pouvaient les ramener à la frontière dans un rayon de 20 km. Donc, je sais pas. C'est rigolo parce que je suis pas vraiment inquiet, mais j'aimerais bien que jusqu'au bout, ça se passe bien. C'est un engagement réfléchi.
Pour aller à la...
École de Fenestre.
École de Fenestre. Et puis,
après, refuge après, à Madone, ouais. Madone de Fenestre. Hein. Et après, là-bas, il y a une voiture qui vient nous chercher.
Ah, ouais, la voiture.
Ça va, hein, Carlo, tu veux...
Le confort.
On te les confine, nous, les Soudanais, si tu veux.
Il est 7h27.
Et après, la voiture, jusqu'à quelle ville ?
Ça, on peut pas te le dire.
Là là.
Merci. Merci pour votre hospitalité.
Ciao.
When you gave Ahmed the stick.
Thomas gave the stick.
Yeah,
quand Thomas donnait le bâton à Ahmed, ça lui rappelait ses vaches au Darfour. Il était berger nomade avant. Il m'a dit, ces types me rappellent ma vie d'avant au pays. Parce que c'est le même environnement. Les vaches lui manquent maintenant.
On va voir des vaches, Thomas. Quand t'as filé le bâton à Ahmed,
ouais.
Ahmed, ça lui a rappelé le pays,
ouais.
Parce qu'il était nomade, il était berger nomade au Darfour.
C'est vrai.
Et donc il avait des vaches, donc il aimerait bien voir des vaches.
Ah mais on verra pas de vaches, je crois pas.
Peut-être Ahmed aura-t-il des vaches à l'avenir dans ce pays, quand ils lui offriront un permis de résidence.
Vraiment ?
Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il s'achèterait des vaches et qu'il reviendrait dans le coin comme berger nomade. Tu peux croire ça ? Tu sais, Ahmed, il a beaucoup d'imagination.
Pour
ce qui me concerne, je m'installerai en ville.
Ahmed lui a dit qu'il allait devenir un nomade en Europe avec des vaches. Tu peux peut-être lui donner des conseils.
Ouais. On pourra faire des choses ensemble.
Ahmed, Thomas va t'aider à trouver des vaches.
Help you find some cows.
Ok.
With a good price, hein? Yeah.
Un bon prix, hein? Est-ce que tu vois le point noir là-bas?
Au-dessus du rocher?
Non. Regarde bien. Il est au-dessus de cette étendue-là. Tu devrais voir un point noir sur la gauche.
Ah, c'est ce point noir-là ? Oui, je le vois.
Tu vois, c'est une gazelle. Il bouge là maintenant.
C'était quand même le truc indispensable. Enfin, le...
Il fallait un petit chamois quand même. Le mec, il est cool, il est au rendez-vous, tu vois. C'est organisé quand même. Ça paraît à l'improviste, mais derrière, il y a une armée qui organise tout ça.
So you make it ready before we came, hein?
Donc vous l'avez posé là avant qu'on arrive, hein?
Allah, you are very funny, Thomas.
C'est très drôle, Thomas.
We want you to have...
Nous voulons que vous ayez la meilleure impression de la France. Il faisait encore frais. Thomas, qui d'habitude en début de randonnée imposait le pas pressé du berger à la recherche d'une brebis égarée, affichait ce matin une attention de tous les instants. Il était de ceux qui disaient nos montagnes pour parler des Alpes. Je le surpris à chercher avec soif l'émerveillement dans les regards d'Ibrahim et d'Ahmad face au sommet des massifs de l'Argentera et du Mercantour.
C'est le col ? À droite.
La frontière est à 2 heures.
Look,
regarde.
Fenestrelle.
Fenestrelle. Finestra.
And this is the right altitude. 2474
mètres. Ça veut dire 2,5 km.
Parce que depuis le début, je regarde la carte à l'envers.
Donc ça y est, on le voit le col, hein. C'est là.
Oh, that's nice.
C'est une bonne nouvelle.
It's really nice to hear.
So je suis heureux de l'entendre.
Almost out of Italy.
Yes.
Donc ça veut dire qu'on est presque sorti d'Italie.
Oui.
Quand on passera la frontière, il faudra que vous me félicitiez. Je serai enfin sorti de Vintimille. Et j'aurai enfin quitté l'Italie. Et j'aurai enfin atteint ma destination, mon but.
L'endorphine et l'éclat du soleil nous rendaient insouciants de l'état d'enneigement du col et des conséquences de notre acte. En accompagnant Ibrahim et Ahmad en France, Thomas et moi risquions 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour l'aide au passage illégal de la frontière nationale.
Be careful here.
À l'heure où j'écris ces lignes, Ibrahim a obtenu la protection subsidiaire de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA.
Viens faire la trace, Thomas.
La France ne lui reconnaît pas le statut de réfugié, mais considère qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courrait dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves à sa personne, comme la peine de mort, la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
The border.
Voilà, on est à la frontière.
Soldiers, yeah.
Ici, il y avait des soldats.
You know,
vous savez, la France et l'Italie étaient en guerre au début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tout le long de la frontière, dans les montagnes,
il y avait des postes de police.
Non, pas seulement de la police. En le refoulant manu militari vers l'Italie, sans prendre en compte son désir de demander l'asile en France, on lui avait dénié la possibilité de voir son cas examiné et d'obtenir la protection à laquelle, in fine, il avait droit. Et ça, c'était probablement le casernement des soldats.
Tu leur lis ça.
Ok. Ibrahim,
c'est important.
Par ce col, en septembre 1943, des centaines de juifs de toute l'Europe cherchèrent souvent en vain de se sauver de la persécution antisémite. Toi qui passes libre, souviens-toi que cela est arrivé chaque fois que tu tolères que tout autre ne jouisse pas de tes mêmes droits. It's a very beautiful sentence, Ibrahim.
C'est un très beau texte, Ibrahim.
Tu peux me le traduire ?
Through this pass in September 1943,
c'était Passeur, un documentaire de Raphaël Kraft et Jean-Philippe Navarre pour Sur les Docks. Texte dit par Olivier Martineau.
You,
prise de son studio, mixage,
as a free man,
Valérie Lavalard.
Remember that
Attaché des missions, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko.
On est des hommes libres. On est des hommes libres.
Voilà, on a la gorge serrée. LSD, la série documentaire, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez creuser encore un peu, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour marcher ou nous réécouter toute la vie, eh bien tout ça c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter pour rêver un monde meilleur. Demain, deuxième frontière, visa pour jouer, comment partager les tracasseries administratives des musiciens qui viennent jouer en France.